Bonjour Evelyne, aujourd'hui on fait une plongée dans l'Aveyron du début du XXe siècle. Un Aveyron qu'on imagine peut-être un peu tranquille, mais qui en fait se révèle plein de contrastes, de tensions, vraiment fascinantes.
Absolument.
Et notre guide pour ça, c'est une publication superbe, le bulletin numéro 79 du Carto Club Aveyronnais. Il faut saluer le travail de Guy Mazars, qui est le rédacteur en chef et qui a conçu la maquette. Et ce bulletin, il nous raconte deux histoires, presque deux mondes qui s'opposent. D'un côté, des gens qui reviennent au pays pour se soigner, pour se reconnecter à la terre.
Oui.
Et de l'autre, un Aveyronnais qui, lui, va utiliser son art pour affronter le monde entier.
C'est tout à fait ça. On va explorer ces deux facettes à travers deux articles. Le premier, c'est un travail de recherche de Pierre Dumont, qui s'intitule « Sur les traces des curistes aveyronnais ».
D'accord.
Et le second, qui est signé par Guy Mazars lui-même, nous dresse le portrait de Raoul Cabrol, caricaturiste bozoulais.
Ah, d'accord.
Et ce qui est passionnant, c'est de voir cet Aveyron à deux vitesses. L'un regarde vers l'intérieur, vers ses racines, pour trouver le bien-être. Et l'autre, eh bien, il regarde vers l'extérieur pour questionner, voire combattre les dérives de son temps.
C'est ça. Deux réponses très différentes au bouleversement de l'époque. Alors, commençons par ce regard vers l'intérieur avec ces fameux curistes. L'article de Pierre Dumont, il parle de ces Aveyronnais qui ont réussi à Paris, les bougnats comme on dit.
Oui, les bougnats.
Et qui reviennent se refaire une santé. Alors, on pense tout de suite aux cures thermales un peu chic, mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas?
C'était beaucoup plus ancré dans le terroir. C'est bien plus profond, en fait. Pour ces gens qui vivaient dans le Paris industriel, le bruit, la pollution... Ce retour, c'était pas juste un traitement, c'était un pèlerinage identitaire.
J'aime beaucoup l'idée, un pèlerinage identitaire.
Oui. Revenir pour une cure, c'était littéralement réabsorber le terroir qui les avait faits. C'est une vision de la santé qui est très puissante, presque un rejet du monde moderne, tu vois.
Oui, je vois très bien. Mais alors, concrètement, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'ils consommaient, si ce n'est pas juste de l'eau?
Eh bien, on trouve des choses assez étonnantes. Prenez par exemple la cure Uval à Entraigues.
Et la cure Uval?
De raisin.
De raisin, exactement. Le protocole était simple. Manger 1 kg de chasselas, bien mûr, à jeun, tous les matins.
1 kg? 1 kg, on disait que c'était drainant, revitalisant, bon pour la fatigue. Mais le plus fascinant, c'est que le traitement, ce n'était pas que le raisin.
Ah non.
Non, c'était toute l'expérience. Les promenades au bord du lot, la pêche, le canot. C'était une thérapie par la nature, une détox avant l'heure, quoi.
Manger 1 kg de raisin en se baladant, on a connu pire comme prescription médicale. Mais je suis un peu sceptique. Est-ce qu'on sait si c'était vraiment efficace ou est-ce que c'était surtout l'effet placebo, le fait de prendre des vacances?
C'est une excellente question. L'article ne se prononce pas sur l'efficacité scientifique, mais il insiste beaucoup sur le bien-être ressenti. Et tu as sans doute raison. La rupture avec Paris, l'air pur, le repos, ça faisait probablement 90% du travail. Mais le rituel, ça donnait un cadre, ça donnait un sens à cette pause. Et certaines cures étaient encore plus rustiques.
Plus rustiques, oui.
Exactement. Comme la cure de petit lait sur le plateau de l'Aubrac.
Attendez, la cure de petit lait? Le liquide qui reste quand on fait le fromage, c'est bien de ça qu'on parle?
Exactement, le lactosérum. De juin à septembre, les curistes montaient dans les burons, ces cabanes de bergères en pierre.
D'accord.
Et là, ils buvaient ce petit lait. On lui prêtait des vertus dépuratives, stimulantes. On disait même que ça agissait sur la dépression. L'idée, c'était de combiner le produit avec l'air pur de la montagne à 1400 mètres. C'était une expérience, enfin, assez spartiate.
J'ai du mal à imaginer des Parisiens habitués au confort qui montent dans une cabane de berger pour boire du jus de fromage. Ça montre à quel point ce besoin de retour aux sources était fort.
Ah oui, très fort.
Mais à côté de ça, il y avait quand même de vraies stations thermales.
Bien sûr, et avec des spécificités uniques en France. L'exemple le plus dingue, c'est Cransac.
Cransac.
Là-bas, il n'y a pas de source d'eau chaude. La cure, elle se fait avec des gaz chauds naturels.
Des gaz?
Oui, qui s'échappent de la combustion souterraine de schiste. Et les premières méthodes étaient, disons, primitives. Au début, les gens s'allongeaient dans des fosses communes pour inhaler les vapeurs.
Dans des fosses communes? C'est à la fois fascinant et un peu glauque.
Ça a vite évolué, heureusement. On a ensuite construit des cabanes individuelles en bois, les étuves.
Les étuves.
Oui, l'article les décrit comme de grandes caisses, en fait. Le malade s'asseyait dedans, le corps dans les gaz chauds, et seule la tête dépassait par un trou.
La tête qui dépasse, hein. J'ai une image à la fois comique et un peu terrifiante. On dirait un gag de dessin animé. ou un instrument de torture. Les gens prenaient ça au sérieux.
Ah oui, tout à fait. C'était réputé pour les rhumatismes, une institution. Et puis, il y avait des stations plus classiques, comme en Andrabre, célèbre pour son eau ferrugineuse.
D'accord.
Elle a eu son heure de gloire, hein, jusqu'à 30 000 bouteilles produites en 1871. Mais quand sa popularité a baissé dans les années 30, ils ont lancé une campagne de pub, avec un slogan, assez direct.
Ah, j'adore les vieilles pubs. C'était quoi?
C'était d'une franchise absolue. Constipé, ne tournez plus autour du pot, buvez l'eau d'Andrabre.
Excellent. Pas de chichi, on va droit au but. C'est formidable. Donc on a cette image d'un Aveyron qui se soigne en se tournant vers ses racines.
C'est ça. Vers sa terre, ses fruits, son eau. C'est presque un repli sur soi, mais au sens noble du terme. Une thérapie par l'introspection géographique.
Voilà. C'est la première facette. Et pourtant, à la même époque, un autre Aveyronnais va faire tout l'inverse. Au lieu de se replier pour se soigner, il va utiliser ses racines comme tremplin pour observer, critiquer et affronter le monde avec son crayon. C'est l'histoire de Raoul Cabrol racontée par Guy Mazard.
Une trajectoire complètement opposée, en effet. Cabrol naît en 1895 à Bouzoul, famille modeste. Il monte à Paris et, après la guerre de 14, il trouve un petit boulot de retoucheur photo.
Ah oui ?
Chez Henri Manuel, qui était le photographe des célébrités de l'époque. Et c'est là que tout bascule.
Comment ça ?
Comprend qu'il a un diamant brut sous la main. Il lui prête sa propre galerie pour une première expo en 1922, Masque et sourire. Le succès est immédiat, foudroyant.
C'est une histoire incroyable. Et comment son art devient si populaire si vite ?
Grâce à un support qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était viral à l'époque. La carte postale.
Ah oui, bien sûr.
Dans les années 20, Cabrol va en produire une quantité phénoménale. Guy Mazard, l'auteur de l'article, dit en avoir une quarantaine, mais il estime qu'il pourrait en avoir plus de 300. C'était les mêmes de l'époque, en fait.
C'est ça, ça a diffusé son travail partout. Et il dessinait qui, alors ? Des politiques ?
Tout le monde y passait. C'est une chronique de son temps. Les stars du sport, la tenniswoman Suzanne Lenglen, le boxeur Jack Dempsey.
Ah oui !
Et même le nageur Johnny Weissmuller, bien avant qu'il ne devienne Tarzan.
Incroyable.
Il dessinait aussi les géants de la culture, comme Anatole France et évidemment toute la classe politique, le maréchal Foch, les présidents Poincaré, Doumergue. Personne n'était à l'abri de son crayon.
Mais ce n'était pas juste un observateur amusé. Son crayon était une arme, et l'article insiste là-dessus. D'où venait cet engagement ?
Ça venait de la boue des tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été gazé. Et ce traumatisme a fait de lui un pacifiste acharné pour le reste de sa vie.
D'accord, je vois.
Il va donc mettre son art au service de ses convictions. Il collabore avec des journaux très engagés comme l'Humanité. Son crayon n'est plus seulement là pour faire sourire, il devient un outil de combat.
Et ce combat, il va devenir particulièrement féroce avec la montée du fascisme dans les années 30.
Féroce, c'est le mot. Il s'engage corps et âme. Ses dessins contre Hitler sont d'une violence rare pour l'époque. Il le représente comme un chien enragé, la bave aux lèvres.
C'était direct.
Carrément. Et ça a failli lui coûter très très cher.
C'est-à-dire ?
Il a été menacé.
Plus que ça. L'article raconte une anecdote incroyable. Une de ses caricatures d'Hitler, publiée dans un journal au Luxembourg, a provoqué un incident diplomatique.
Un incident diplomatique ?
Vivement. À cause d'un dessin.
Au plus haut niveau. L'entourage du dictateur a déposé une plainte officielle. L'affaire a fait un bruit monstre. Finalement, face au scandale, la plainte a été retirée.
C'est fou.
Mais ça donne une idée du courage et de l'impact du bonhomme. Il n'a pas lâché, il a continué à dessiner tout l'état-major nazi. Himmler, Göring, Goebbels.
Et puis la guerre éclate. Sa vie a dû être complètement bouleversée.
Radicalement. D'abord, il rompt avec le Parti communiste après le pacte germano-soviétique. C'est une trahison pour le pacifiste qu'il est.
Bien sûr.
Il sent le danger, il quitte Paris et il se réfugie en Aveyron. Une décision qui lui a sans doute sauvé la vie. Les Allemands ont réquisitionné sa maison à Paris et ont détruit la plupart de ses dessins originaux.
Quelle perte terrible. Mais il ne reste pas les bras croisés en Aveyron, j'imagine.
Loin de là. Il entre dans la résistance. Et là, c'est fascinant. Il va réutiliser sa toute première compétence.
La retouche photo.
Exactement. Il met son talent au service du maquis pour truquer des photos et fabriquer de fausses cartes d'identité. Son art, même dans l'ombre, continue le combat. C'est incroyable comme la boucle est bouclée.
C'est un parcours. De la caricature de star à la fabrication de faux papiers pour la résistance. Et après la guerre, quel est son héritage ?
Il retrouve sa place dans la presse, notamment au Canard enchaîné. Il ne publiera qu'un seul album, En quatrième, en 47, une galerie de portraits des politiques de la 4e République.
D'accord.
Mais le plus touchant, je trouve, c'est l'hommage de son ami Pierre Louroubière à sa mort en 1956. Il est cité dans l'article. Il décrit le paradoxe de l'homme. Un crayon terrible, si féroce parfois, mais un homme d'une douceur, d'une bonté et d'une modestie infinie.
C'est une très belle conclusion sur sa vie. Alors, si on résume. Grâce à un seul bulletin d'un club de passionnés, on a le portrait d'un Aveyron à double visage.
Tout à fait.
D'un côté, le refuge, le soin par la terre, le retour aux sources. Et de l'autre, l'arène mondiale, le combat politique. Un homme qui se mesure aux monstres de son temps.
Exactement. Et ces deux récits, celui de Pierre Dumont et celui de Guy Mazard, nous disent qu'on peut habiter le monde de manière radicalement différente, même depuis un territoire qu'on pourrait croire en marge. On peut chercher à soigner ses propres blessures en se reconnectant à ses origines, ouais. Ou on peut utiliser ces mêmes origines comme une force pour aller soigner les blessures du monde. La cure ou le combat. L'Aveyron de l'intérieur et l'Aveyron de l'extérieur.
Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. On vit à l'ère des mèmes, de la critique instantanée, virale, souvent anonyme.
Oui.
Et en voyant le parcours de Cabrol, on ne peut s'empêcher de se demander ce que son art, un art qui demandait du temps, de l'observation et surtout un courage physique, celui de signer son nom sous une caricature d'Hitler, ce que cet art peut encore nous apprendre sur la manière et peut-être sur le prix d'une critique pertinente aujourd'hui.